Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant de commencer ce cours, je vous rappelle les retraites. Vous avez sur le site le calendrier avec les différentes retraites. En principe, la retraite de Semaine Sainte est pleine, je vais peut-être avoir une annulation, je ne sais pas encore très bien. Je vous préviendrai dès que j'ai des nouvelles. J'ai encore des places pour les autres retraites, mais n'attendez pas le dernier instant pour vous inscrire pour ces retraites. Je vous rappelle les dates de ces retraites. Donc la retraite de Semaine Sainte en principe est pleine, avec un point d'interrogation pour une chambre. Du 11 avril au 17 avril 2022. Après, j'ai une autre retraite du 25 avril au 30 avril, du 16 mai au 21 mai, du 6 juin au 11 juin, du 12 septembre au 17 septembre, du 3 octobre au 8 octobre. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui m'ont envoyé leurs vœux et qui ont fait des dons pour la fête de Noël. Souvent, j'ai des dons qui arrivent et j'ignore d'où viennent ces dons. Souvent, ça arrive directement à mon compte bancaire, et j'ai pas toujours les références bancaires pour remercier les gens. Donc, j'en profite ici pour remercier surtout toutes les personnes anonymes qui me mettent des fonds pour me permettre tout simplement de continuer mon œuvre apostolique, puisque malheureusement, l'argent est quand même un des nerfs de la guerre sur le plan naturel. Merci pour votre aide. Je transmets à tous aussi mes bons vœux pour cette nouvelle année, même si pour un catholique, l'année nouvelle commence au premier dimanche de l'Avent. Que bon Dieu nous donne la force, Dieu sait si on va en avoir besoin. Donc on continue dans ces explications de l'évangile selon Saint Jean sur le polycopier qui couvre les commentaires des pères de l'Église des chapitres 1er jusqu'au chapitre 5 de Saint Jean. Nous en sommes à la page 43, ou la page 43. Donc c'est l'histoire de la Samaritaine. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donnez-moi à boire ». Je vous répète les phrases que nous commentons dans un psaume au chapitre 4, versets 7 à 12 de Saint Jean. Jésus lui dit « Donnez-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Cette femme samaritaine lui dit « Comment vous, qui êtes juif, me demandez-vous à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont point de rapport avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si vous connaissiez le don de Dieu, et quel est celui qui vous dit « Donnez-moi à boire », peut-être lui auriez-vous fait vous-même cette demande, et il vous aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, le puits est profond, d'où avez-vous donc de l'eau vive ? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Alors nous allons voir que cette femme samaritaine est une figure de l'Église. Donc j'ai déjà expliqué un petit peu, j'avais commencé les explications de ces versets au dernier cours, je continue. Donc cette femme est une figure de l'Église, notamment parce qu'elle vient du milieu des étrangers, parce que les Samaritains étaient étrangers pour les Juifs. C'est un peu aussi le symbole, encore une fois, on retrouve les mêmes symboles. Donc le peuple juif refuse notre Seigneur Jésus-Christ et le peuple samaritain vient prendre la place d'une certaine façon. C'est exactement ce qui s'est passé avec le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Les Juifs ayant refusé notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va aller chercher un nouveau peuple et le peuple des catholiques, qui était composé au début, je vous l'ai souvent expliqué, de juifs convertis au catholicisme. Donc l'Église, disent les pères aussi, doit venir du milieu des nations, d'une race étrangère à celle des juifs. Donc c'est le symbole de cette femme qui est samaritaine, donc et qui n'a pas de rapport avec les juifs. Les juifs refusaient également tout rapport avec les samaritains. Et bien, cette femme est donc la figure de l'Église catholique qui arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles, littéralement, pour prendre la place de ceux qui refusent le Messie, malgré toutes les prophéties qui ont été réalisées par notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les multiples miracles qu'il a fait. Donc Jésus avait soif aussi de la foi de cette femme, car il a soif de la foi de tous les hommes pour lesquels il a répandu son sang. C'est le sens de la phrase « Donnez-moi à boire ». On va retrouver cette soif de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, je crois. On va retrouver cette soif sur la croix, quand notre Seigneur Jésus-Christ va dire « J'ai soif, sitio ». Ça veut dire quoi ? J'ai soif d'âme. J'ai soif d'âme qui accepte de venir s'abreuver à mon sang. C'est-à-dire, j'ai soif et les hommes que je représente, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est aussi parfaitement homme, il n'est pas que Dieu, il est Dieu et homme, donc il représente aussi toutes ces âmes qui ont soif de la vérité. J'avoue que c'est une chose qui me frappe beaucoup, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis frappé par le nombre de personnes qui ont soif du vrai, qui cherchent le vrai. Bon, évidemment, en soi, c'est une quantité extrêmement petite, mais rien que la semaine dernière, j'ai eu comme ça trois jeunes qui sont venus me voir et qui venaient un peu de milieux pas forcément traditionnalistes et qui cherchent le vrai. Et quand on cherche, on trouve. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, celui qui frappe, on lui ouvrira. Celui qui cherche, il trouvera. Celui qui demande, on lui répondra. Donc, cette phrase est importante. Jésus a soif de la foi de tous les hommes pour lesquels il a répandu son sang. Et parce qu'il a répandu son sang pour nous, nous pouvons venir abreuver cette soif du vrai au pied de la croix, parce que c'est au pied de la croix que nous avons ce contact avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Écriture sainte donne à la grâce de l'Esprit-Saint tantôt le nom d'eau, tantôt le nom de feu. Pourquoi ? Parce que le feu est l'emblème de l'efficacité et la ferveur de la grâce pour effacer et détruire le péché. Pourquoi ? Le feu purifie, le feu réchauffe, le feu éclaire. Les trois actions principales du feu, réchauffer, éclairer et purifier. Et c'est le symbole évidemment du rôle de la grâce. La grâce aussi va réchauffer les âmes tièdes, les âmes faibles, les âmes froides. La grâce va aussi purifier, surtout la grâce sacramentelle du sacrement de pénitence, et elle va aussi éclairer les âmes. Donc ces grâces, c'est pas simplement la grâce habituelle, qui est l'état de grâce, c'est-à-dire l'habitation en nous de la Sainte Trinité, mais c'est aussi des grâces actuelles. N'oublions pas que les grâces actuelles sont les petites grâces que le bon Dieu donne pour aider à passer un cap difficile, moment de tentation, moment de désolation. Et que ces grâces actuelles peuvent être données à des gens qui sont en état de péché mortel. Heureusement d'ailleurs. N'oublions pas qu'une fois que je suis tombé dans le péché mortel, j'ai perdu la grâce sanctifiante, j'ai perdu la grâce habituelle et je suis incapable de revenir retrouver la grâce habituelle, la grâce que j'ai perdue, sans une grâce particulière du bon Dieu. Vous voyez, donc il faut ces grâces, on a besoin de ces grâces actuelles pour se relever. D'abord regretter ses péchés, on ne peut pas regretter un péché mortel sans une grâce actuelle du bon Dieu, et on ne peut pas se retrouver au pied du confessionnal sans une autre grâce actuelle du bon Dieu, et le bon Dieu ne refuse jamais ses grâces à ceux qui la demandent. Donc le feu ici symbolise le travail de la grâce, et on voit aussi l'eau, ici on fait allusion à un puits, le puits de Jacob. Notre Seigneur va rencontrer la Samaritaine, le puits de Jacob, et l'eau est la figure de l'action purifiante du Saint-Esprit, le rafraîchissement divin qu'il donne aux âmes qui le reçoivent. Et on retrouve les mêmes idées et avec les mêmes fonctions d'ailleurs. De même que le feu, l'eau va aussi purifier, va aussi nettoyer en quelque sorte, va guérir. C'est le symbole de l'eau qui lave les blessures et qui permet à la blessure de se cicatriser parce qu'elle a été purifiée des souillures. Donc, la grâce du Saint-Esprit est appelée une eau vive, rafraîchissante et active, car la grâce de l'Esprit-Saint dirige et conduit celui qui fait le bien et dispose dans son cœur les degrés par lesquels il s'élève jusqu'à Dieu. On ne peut pas s'élever vers Dieu tout seul à force du poignet, c'est absolument impossible. Ceux qui enseignent cela sont des activistes ou des volontaristes. Donc il faut se rappeler que lorsque j'ai perdu le bon Dieu, j'ai besoin d'une grâce spéciale pour retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. C'est faire attention parce qu'on voit souvent ça, nous prêtres, des gens qui jouent un peu avec le feu en disant « Oh, bon, je vais faire le zouave ce vendredi soir, ce samedi soir, je vais m'éclater, comme on dit, dans une boîte de nuit, mais j'irai me confesser dimanche matin. » Attention, il faut être vivant d'abord le lendemain matin, vous pouvez mourir pendant la nuit, il faut aussi avoir la possibilité d'avoir un prêtre pour se confesser, ce qui n'est pas évident, et puis il faut aussi avoir reçu du bon Dieu une grâce de la contrition, au moins la contrition imparfaite. Et bon Dieu n'est pas obligé de donner ses grâces, attention, craignons la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Si j'ai l'intention d'offenser gravement le bon Dieu le vendredi soir en me disant bon, ou samedi soir en me disant bon demain c'est dimanche j'irai me confesser, c'est un péché de présomption, hein. Un péché de présomption, c'est un péché d'orgueil. Je joue avec le bon Dieu, j'ai mon âme qui a été nettoyée, qui a été purifiée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ça fait rien, je vais jouer dans la boue volontairement en me disant je retrouverai un moyen ou un autre, par un moyen ou un autre, de retrouver l'état de grâce. Attention, il faut avoir reçu ces grâces. Beaucoup de gens se sont perdus, hélas, parce qu'ils ont voulu jouer avec le feu. Alors, au sens mystique, ce puits de Jacob, c'est verset 4-12 du chapitre 4 de Saint Jean. « Êtes-vous plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits ?» Donc, on est au puits de Jacob. Mais ce puits de Jacob, d'après les pères, mystiquement représentent les saintes écritures et ceux qui sont versés dans la connaissance de ces saintes lettres. Ils boivent comme Jacob et ses enfants. Les esprits saints ignorants boivent comme les troupeaux du patriarche. Vous voyez? Donc, chacun peut trouver dans ce puits, même s'il est profond, la connaissance de Dieu. Il faut commencer à venir s'approcher de l'eau de la grâce pour pouvoir justement comprendre le sens des saintes écritures. C'est comme, imaginez une comparaison qu'on peut utiliser, imaginez un texte qui est complètement sali par la boue, donc on ne voit plus ce qui est écrit sur le papier, et donc l'eau va nettoyer le papier, enlever la boue, et permettre de révéler ce qui est écrit sous la boue. Mais c'est un peu la même chose que les saintes écritures. Les saintes écritures doivent être interprétées selon le sens de l'Église. Et cette eau est le symbole de l'Esprit-Saint qui nous donne la véritable interprétation de l'Écriture. Loin de nous, l'idée même d'avoir notre propre interprétation de l'Écriture sainte, là on tombe dans le protestantisme. La base du protestantisme, c'est quoi? Le libre examen, c'est quoi? C'est je refuse de suivre l'interprétation qui m'est donnée par les pères de l'Église, par la tradition de l'Église, et je veux avoir ma propre interprétation. Vous voyez un petit peu la pagaille qui s'ouvre là, parce qu'imaginez 10 personnes qui lisent le même texte sacré, et s'il y a 10 personnes, il y a 10 interprétations différentes. Et on le voit très bien avec le début du protestantisme, on est au début du XVIe siècle, avec la révolte de Luther, immédiatement c'est la prolifération des sectes. Les sectes protestantes, il y en a des nouvelles qui seraient pratiquement tous les 10 ans, une nouvelle secte protestante. Je crois qu'officiellement aux États-Unis, si mes souvenirs sont exacts, il y a plus de 400 ou 500 maintenant sectes protestantes différentes, parce que chacun peut ouvrir sa propre secte. Chacun peut se prétendre leader d'une secte, ministre d'une secte quelconque, à cause d'une interprétation personnelle. Et on retrouve ce même état d'esprit, cet esprit de libre examen, on retrouve tout à fait dans l'Église de Vatican II. Les modernistes ne veulent pas l'interprétation traditionnelle de l'Église, ils n'ont que mépris pour cela. Donc attention à cette tentation que nous pourrions avoir d'avoir notre interprétation personnelle de l'Écriture sainte. Il faut encore une fois passer par les pères de l'Église, c'est eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte et les seuls qui l'ont. On parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui des textes de l'Apocalypse. Encore une fois, attention, l'Apocalypse est certainement un des livres les plus compliqués de la Sainte Bible. Et il faut se garder d'avoir ses interprétations personnelles là-dessus. Je conseille beaucoup, je viens de lire, relire un livre que j'avais déjà lu il y a très très longtemps, il y a moins 20 ou 30 ans. J'avais bien oublié, malheureusement, parce que j'ai oublié beaucoup de choses que je lis, hélas. Et j'ai relu cette semaine dernière le commentaire de Don de Mauléon sur le texte de l'Apocalypse, que je conseille beaucoup à ceux qui s'intéressent à ça. Beaucoup de catholiques aujourd'hui sont intéressés par l'Apocalypse. C'est un peu devenu une mode presque chez les traditionalistes de vouloir lire et interpréter un peu à sa guise les textes de l'Apocalypse. Attention, il faut se méfier de cette tentation d'interprétation personnelle de l'Apocalypse. Et c'est ça qui est très bien avec Don de Mauléon, je conseille beaucoup cet auteur. Don de Mauléon se soumet totalement, il se cache littéralement derrière l'interprétation de l'Église, l'interprétation des pères de l'Église. On retrouve cette même humilité, surtout dans l'œuvre magistrale, de saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle la chaîne d'or, la catena aurea, que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise toujours pour préparer ces cours. La plupart des textes que vous avez sur le polycopier sont des textes que j'ai trouvés dans la catena aurea de saint Thomas d'Aquin. La catena aurea, c'est tout simplement un recueil des commentaires des pères de l'Église sur chaque verset de l'Évangile. Et saint Thomas d'Aquin, je vous l'ai déjà dit, a fait tout ça par cœur, sans même vérifier, parce qu'il connaissait, il avait reçu le don du bon Dieu de retenir tout ce qu'il lisait. Et on voit très bien la catena aurea, c'est presque un peu sec d'ailleurs, parce que il n'y a aucun texte de saint Thomas lui-même, c'est une simple compilation de tout ce que les pères de l'Église ont dit sur le sujet. Oui. Donc, attention, il faut demander cette grâce de l'interprétation des Saintes Écritures. Donc, Don de Mauléon est un auteur très très sûr de ce côté-là. Tout son travail d'exégèse est extraordinaire. Il a beaucoup travaillé sur le Pentateuque, les premiers livres de la Sainte Bible. Il a fait aussi un commentaire des Noces de Cana. Il a fait un commentaire aussi en plus des textes du Pentateuque, surtout sur Moïse, les patriarches, Jacob, David, etc. Il a fait aussi d'autres commentaires, entre autres sur le livre de Josué, qui est magnifique, qui est difficile à trouver. Il a fait aussi quelque chose sur le Cantique des Cantiques. Dès que vous trouvez tous ces livres de Don de Mauléon, sont parfaits. Il n'y a rien à dire sur Don de Mauléon. C'est des auteurs très très sûrs. Oui, il faut connaître un certain nombre d'auteurs. Don de Mauléon en est un, très sûr, justement sur ces choses-là. Parce qu'il a bien l'esprit d'Église. Il boit à la moelle de l'Église. Et notre auteur très sûr dans un domaine un peu différent, mais que je conseille beaucoup, c'est Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur de Lassus, l'abbé Barbier, tout ça, sont des auteurs extrêmement sûrs. Et par les temps qui courent, il faut justement, alors qu'on est, la maison est secouée comme un cocotier par l'ouragan moderniste et par l'ouragan libéral, mais il faut s'accrocher à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Vous voyez? Donc ce puits de Jacob représente les Saintes Écritures et l'interprétation des Saintes Écritures. C'est les deux choses, disent les pères. Les Saintes Écritures sont représentées par le puits de Jacob et ceux qui sont versés dans la connaissance des Saintes Lettres. C'est-à-dire, on va au puits de Jacob, on va aux Saintes Écritures et on puise l'eau dans ce puits qui est très profond à cause de la profondeur de la doctrine qui explique les Saintes Écritures, et cette eau représente l'interprétation qui va être donnée, la connaissance, le don d'intelligence, le don de science, si vous voulez, qui vont être donnés à ceux qui cherchent l'Écriture sainte, qui cherchent l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Et le modernisme a surtout travaillé avec ça. La première chose qu'a fait le modernisme, c'est couper les fidèles de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé. J'utilise extrêmement souvent, presque à chaque sermon, j'utilise dans les explications que je donne en sermon, des explications qui viennent des pères de l'Église. Et souvent, les gens me l'ont dit, ils m'ont dit, monsieur l'abbé, ces explications des pères de l'Église, c'est magnifique, quel dommage qu'elles soient si peu transmises par les prêtres. Et c'est vrai qu'il y a des prêtres qui, malheureusement, même dans la tradition, parfois, ne parlent jamais de cette interprétation des pères de l'Église. Donc, les Juifs étaient complètement séparés, on reprend le texte, au verset 9, il est dit, du chapitre 4 de Saint Jean, les Juifs n'ont point de rapport avec les Samaritains. Donc la Samaritaine s'étonne, comment vous, qui êtes Juifs, me demandez-vous à boire à moi qui suis une femme Samaritaine? Bon. Donc les Juifs se coupaient complètement des Samaritains et refusaient d'utiliser la même coupe pour boire, le même lit pour dormir, les considérant comme impurs et abominables à cause de leur schisme. Le temple même des Samaritains n'était pas le même que le temple de Jérusalem. Donc il y avait une espèce de... C'était un groupe schismatique littéralement pour les Juifs. Que cela nous apprenne, disent les pères, donc on est en haut de la page 43 sur le polycopier, que cela nous apprenne à nous couper de toute amitié et conversation avec les hérétiques. Leurs paroles nous dévorent comme un cancer. Donc il faut se couper de l'esprit protestant. Pas simplement se couper du protestantisme, mais se couper de l'esprit protestant. Vous voyez, c'est une chose de comprendre que l'église de Vatican II n'a plus rien à voir avec l'église catholique, c'est une autre chose beaucoup plus compliquée de se couper des mauvaises influences qui viennent de l'église de Vatican II. Parce que souvent, on a des fidèles qui ont traîné leurs bottes dans l'église de Vatican II pendant 20, 30, 40 ans. Et qu'est-ce que vous voulez, quand on a traîné ses bottes dans l'esprit de Vatican II, qui est un esprit purement protestant, eh bien, à force de vivre dans une poubelle, comme on dit vulgairement, on finit par sentir mauvais. C'est exactement le cas. Donc on a des catholiques de tradition qui sont imprégnés encore de l'esprit moderniste. Et donc, il faut pas simplement commencer à venir à la messe traditionnelle, mais il faut aussi se reprendre l'étude traditionnelle de l'Église et demander la grâce de se vider complètement de toutes les fausses interprétations. Tous ceux qui veulent vraiment travailler cette question, je vous conseille beaucoup la grande encyclique du pape Saint Pie X, Pascendi Dominici Gregis, qui n'est pas une encyclique facile du tout. C'est une des encycliques les plus compliquées de Saint Pie X, mais il faut l'étudier pour ceux qui veulent un petit peu comprendre ce qui se passe. Et vous verrez que Saint Pie X, justement, parle dans son encyclique, il parle du modernisme qui s'infiltre justement par l'exégèse. En effet, selon le moderniste, donc c'est dans le texte de Saint Pie X, Pascendi, Saint Pie X va condamner justement ceux qui tendent à reconnaître dans les livres sacrés une évolution vitale, parallèle et même conséquente à l'évolution de la foi. N'oublions pas que le modernisme est basé sur l'évolutionnisme, sur l'agnosticisme, sur l'immanentisme. Ça veut dire, ce sont des mots un peu synonymes, qui disent que chacun fait sa vérité à l'intérieur de lui-même. Je voudrais vous lire quelques passages, justement, de l'encyclique. Voilà ce que dit Saint Pie X pour nous aider à comprendre que ce qui nous coupe de l'interprétation traditionnelle, surtout en matière d'écriture sainte, c'est l'orgueil. Voilà ce que dit Saint Pie X sur l'orgueil. Je vous cite certains passages de l'encyclique. Par combien de routes le modernisme conduit à l'anéantissement de toute religion? Le premier pas fut fait par le protestantisme, le second est fait par le modernisme, le prochain précipitera dans l'athéisme. Je vais voir ce qui se passe aujourd'hui. Et Saint Pie X explique la cause prochaine et immédiate réside dans une perversion de l'esprit, cela ne fait pas de doute. Les causes éloignées nous paraissent pouvoir se réduire à deux, la curiosité et l'orgueil. Jusqu'où vont les divagations de l'humaine raison dès que l'on cède à l'esprit de nouveauté, dit Saint Pie X. Ce qui a incomparablement plus d'action sur l'âme pour l'aveugler et la jeter dans le faux, c'est l'orgueil. L'orgueil, dit Saint Pie X, il est dans la doctrine des modernistes comme chez lui. L'orgueil, il est dans l'esprit de la doctrine des modernistes comme chez lui. De quelque côté qu'il se tourne, tout lui fournit un aliment. Il s'y étale sur toutes ses faces. Écoutez bien ce que dit Saint Pie X. 1910 n'a pas pris une ride. Orgueil assurément, cette confiance en eux qui les fait s'ériger en règle universelle. Orgueil, cette vaine gloire qui les représente à leurs propres yeux comme les seuls détenteurs de la sagesse et qui leur fait dire hautain et enflé d'eux-mêmes, nous ne sommes pas comme le reste des hommes, et qui, afin qu'ils n'aient pas en effet de comparaison avec les autres, les poussent aux plus absurdes nouveautés. Orgueil, cet esprit d'insoumission qui appelle une conciliation de l'autorité avec la liberté. Orgueil, cette prétention de réformer les autres dans l'oubli d'eux-mêmes, ce manque absolu de respect à l'égard de l'autorité sans en accepter l'autorité suprême. Nulle route en vérité qui conduise plus droit ni plus vite au modernisme que l'orgueil. Qu'on nous donne un catholique laïque, qu'on nous donne un prêtre qui ait perdu de vue le principe fondamental de la vie chrétienne, savoir que nous devons nous renoncer nous-mêmes si nous voulons suivre Jésus-Christ et qui n'ait pas arraché l'orgueil de son cœur, ce laïque, ce prêtre est mûr pour toutes les erreurs du modernisme. C'est pourquoi, vénérable frère, là il s'adresse aux évêques, votre premier devoir est de traverser ces hommes superbes, de les appliquer à d'infimes et obscures fonctions. Qu'ils soient mis d'autant plus bas qu'ils cherchent à monter plus haut et que leur abaissement même leur ôte la faculté de nuire. Et ensuite il va, j'ai pas le temps de tout expliquer, on pourrait passer des heures à expliquer les pages indiques d'une encyclique fondamentale. Et il va montrer les racines, l'ignorance d'abord. Et il va dire, c'est la conclusion de Saint Pédis, c'est d'une alliance de la fausse philosophie avec la foi qui n'est pétri d'erreurs leur système moderniste. Trois choses, ça c'est très important à comprendre, dit Saint Pédis, trois choses. Trois choses, ils le sentent bien, leur barrent la route. La philosophie scolastique, c'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin, l'autorité des pères de l'Église et la tradition et le magistère de l'Église. À ces trois choses, ils font une guerre acharnée. C'est un fait qu'avec l'amour des nouveautés va toujours de pair la haine de la méthode scolastique. Et il n'est pas d'indice plus sûr que le goût des doctrines modernistes commence à poindre dans un esprit que d'y voir suivre le dégoût de cette méthode moderniste. Vous voyez, il faut revenir à toutes ces protections surnaturelles qui nous ont été données par le magistère de l'Église. Déjà, au temps de Saint Pédis, vous aviez les modernistes qui disaient que les livres saints ne sauraient plus être attribués aux auteurs dont ils portent le nom. Et Saint Pédis va vilipender justement ceux qui n'hésitent pas à affirmer que les livres en question, surtout le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Sainte Écriture, et les trois premiers évangiles, ce qu'on appelle les synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, se sont formés lentement d'injonctions faites à une narration primitive fort brève. Et ces gens-là n'hésitent pas à reconnaître dans les livres sacrés une évolution vitale, parallèle et même conséquente à l'évolution de la foi. Alors attention encore une fois à toutes ces choses-là, ne pas se laisser dominer par cet esprit de curiosité. Les avertissements de Saint Pédis sont toujours valables et donnent bien les... J'insiste là-dessus, j'en parle très souvent, mais je pense que j'ai mes raisons pour cela. Donc les racines du modernisme, c'est ça, c'est l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Donc loin de nous ces choses-là. Donne-nous l'esprit du monde. Et c'est ici ce que disent les pères de l'Église. Coupons toute amitié, conversation avec les hérétiques. Si je parle trop souvent avec des ennemis de l'Église, je vais finir par me faire rouler par eux. Combien de catholiques ont perdu la foi, par exemple, parce qu'ils ont trop parlé avec les témoins de Jéhovah. Aux États-Unis, ça fait des catastrophes. Il faut refuser le dialogue avec ces gens-là. On ne dialogue pas avec le démon. C'est ce que veut le démon, un dialogue. On ne dialogue pas avec le démon, jamais. On exorcise le démon, on ne dialogue pas avec lui. On ne dialogue pas avec les ennemis de l'Église. Ça ne sert à rien de passer des heures et des heures à discuter avec les ennemis de l'Église. On prend la foi. C'est-à-dire on demande à ces gens-là qui se prétendent catholiques, êtes-vous d'accord avec les grandes encycliques du XIXe siècle et du début du XXe, notamment les grands textes de condamnation du modernisme. C'est ce que je demande aux gens qui me disent, monsieur l'abbé, vous êtes, est-ce qu'on peut discuter avec vous? On n'est pas d'accord avec vous. Nous, on vient de la nouvelle religion, c'est vrai, mais on voudrait pouvoir discuter. On discute pas ces choses-là. Je discute pas la foi. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, avec les grands textes? Stupa Shandi, Domenicic Regis de Saint Pédis, avec Quantacura, le Syllabus de Pie IX, avec toutes ces grandes encycliques antilibérales du 19e et du début du 20e, est-ce que vous êtes d'accord ou non? On peut en discuter. Non, on ne discute pas ces choses-là, on ne discute pas avec le démon. Attention. M'excuse d'insister là-dessus, mes bien chers frères. Alors, continuons les commentaires de l'Église, page 43. Donc, on revient à cette signification de l'eau vive, donc qui est la figure de l'action purifiante de l'Esprit Saint, du rafraîchissement divin que notre Seigneur donne aux âmes qui le reçoivent. Donc, cette eau courante, dit saint Augustin, coule de telle sorte qu'elle reste unie à sa source. Au contraire, on appelle eau morte celle qui est coupée de sa source. Lorsqu'on s'éloigne trop de la source, si on ne fait pas attention, on finit par se couper de l'eau qui vient de la source. La source, c'est le Saint-Esprit, voyez. La grâce est appelée eau vive, car elle ne se sépare pas de sa source qui est le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit lui-même est inséparable de sa source, le Père et le Fils, et vit en parfaite union avec eux dans l'essence divine. Bien que le Saint-Esprit envahisse l'âme, il ne quitte pas pour autant le Père et le Fils. Au contraire, le Père et le Fils vont entrer avec lui dans l'âme pour y vivre comme dans leur temple. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre habitation en lui. Oui, saint Jean dit bien, nous ferons notre habitation en lui. Nous, c'est le symbole de la Sainte Trinité. Faisons l'homme à notre image. Déjà dans le texte de la Genèse, c'est un pluriel. Donc, lorsque je reçois notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, est inséparable du Père et du Fils, dans le sens qu'ils sont consubstantiels. Donc, si je reçois notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que disent ici les Pères, le Saint-Esprit et donc le Fils est inséparable du Père et du Saint-Esprit. Donc, quand on reçoit la Sainte Communion, par la Sainte Communion, on ne reçoit pas simplement le Saint-Esprit, on reçoit aussi par la Sainte Communion, on ne reçoit pas simplement Dieu le Fils, on reçoit aussi le Saint-Esprit et on reçoit aussi le Père. Donc, saint Cyril appelle cette eau vive la grâce vivante parce qu'elle donne la vie unie à sa source et nous unissant à elle. Cette source, c'est le Saint-Esprit. Car la grâce dépend toujours du Saint-Esprit et par l'Esprit habite en nous, est unie avec nous et par elle nous sommes unis à lui. Donc vos membres sont les temples du Saint-Esprit. Cette grâce, comme une fontaine de dons et de vertus, descend du Saint-Esprit au ciel et nous fait remonter vers cette source, Dieu et le ciel. Vous voyez, donc il faut éloigner de nous cette idée qu'il faut interpréter les choses de façon personnelle. Non, on n'a pas d'interprétation personnelle. Je ne peux pas supporter cette phrase qui est utilisée souvent par les modernistes. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Trinité? Qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Eucharistie? Chaque fois qu'on me pose cette question stupide, je réponds toujours de la même façon. Je ne pense rien du tout. Je pense ce que l'Église pense. Qu'est-ce que vous pensez des indulgences? Qu'est-ce que vous pensez de la doctrine de l'Église sur tel sujet? Je pense que l'Église est divine, et donc ça ne se discute même pas. Donc je refuse de penser quoi que ce soit différent de l'Église. Par avance, si je dis une chose qui s'oppose à ce que l'Église catholique a toujours enseigné, qui s'oppose au Concile de Trente par exemple, par avance, je récuse cela, bien sûr, ça peut arriver à un prêtre, même à moi, j'avoue, de dire parfois une chose, et puis on se rend compte après qu'on a dit une bêtise, parce que notre langue a fourché, parce qu'on a pris un mot pour un autre. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut même arriver involontairement de faire une erreur, mais dès que je me rends compte que j'ai dit une erreur dans un sermon ou une phrase qui n'était pas très claire, qui a pu être interprété de façon mauvaise par mes fidèles, tout de suite je rattrape pour pas laisser les fidèles dans l'ignorance ou dans l'erreur. Alors saint Cyril appelle la grâce, cette grâce vivante, elle n'est pas simplement une eau vive, elle est aussi grâce vivante parce qu'elle donne la vie unie à sa source et nous unissant à elle. Car la grâce dépend toujours du Saint-Esprit et par l'Esprit habite en nous, est uni avec nous et par elle nous sommes unis à lui. Vos membres sont les temples du Saint-Esprit. Cette grâce, comme une fontaine de dons et de vertus, descend, dit saint Cyril, du Saint-Esprit au ciel et nous fait remonter vers cette source, Dieu et le ciel. Donc il faut utiliser en quelque sorte cet aqueduc qui transmet l'eau de la grâce aux âmes. Vous voyez? Donc, première chose que fait une armée lorsqu'elle veut assaillir une ville, c'est couper les arrivées d'eau. Les Romains faisaient ça, ils coupaient d'abord les aqueducs qui alimentaient en eau potable la ville, et la ville devait se rendre très vite parce qu'il n'y a plus d'eau. Bon, et bien là c'est pareil, qu'est-ce que fait le démon? Il va nous couper de l'aqueduc qui nous donne l'interprétation des pères de l'Église concernant la Sainte Écriture. Donc, cette eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau conduisant à la vie éternelle. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va conduire cette femme, la Samaritaine, de l'eau corporelle à l'eau spirituelle. Donc il passe de l'eau matérielle, et il monte à l'eau de la grâce. Et on va voir ça un petit peu après. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Oui, on va voir ça un petit peu après avec les commentaires des pères. Donc, les religieux et les hommes apostoliques, qu'ils en fassent autant. Notre travail de prêtre, c'est de passer de l'eau corporelle à l'eau spirituelle. Notre Seigneur Jésus-Christ faisait la même chose. Il parlait de paraboles très simples, de choses physiques très simples. Il va parler de la vigne, il va parler du vin, il va parler de l'eau, il va parler des épis de blé, il va parler du froment, parce que c'est des choses que ses auditeurs connaissaient parfaitement. Et de là, il monte les âmes vers le bon Dieu. Et un lac d'eau stagnante est appelé mort car il ne bouge plus. Au contraire, l'eau courante est appelée eau vive parce qu'elle saute de la fontaine comme animée par un esprit vivant. Voilà pourquoi la grâce est comparée à l'eau vive. Et au contraire, celui qui se coupe de l'interprétation de l'Écriture sainte selon la tradition va être abreuvé par une eau morte, c'est-à-dire une eau qui n'est plus liée à la grâce, en union avec la grâce, avec la source, et cette source est le Saint-Esprit. En voyant d'autres explications données par les pères qui expliquent justement pourquoi cette doctrine évangélique du Christ est appelée eau vive, comme le Saint-Esprit et sa grâce. Donc on voit ça au milieu de la page 43 sur les commentaires des pères. Voilà les textes des pères, c'est splendide. Comme l'eau, donc cette doctrine évangélique du Christ nettoie l'âme du péché, l'ornant d'une nouvelle beauté. Vous me laverez, je deviendrai plus blanc que la neige. Donc, l'eau, c'est un symbole de l'eau baptismale, évidemment, l'eau baptismale qui nettoie l'âme du péché, qui purifie, qui abreuve, qui rend fort. Imaginez quelqu'un qui a passé des kilomètres et des kilomètres dans le désert, qui a marché des kilomètres et des kilomètres dans le désert, il tombe sur une oasis, et il va s'abreuver de cette eau vive pour justement reprendre ses forces. Donc l'eau de la grâce va nettoyer l'âme du péché, pas simplement l'eau du baptême, mais on retrouve ce même nettoyage spirituel dans le sacrement de pénitence, évidemment. L'eau aussi nettoie, mais aussi l'eau naturelle peut affaiblir et détruire. Nous voyons que les vêtements lavés sont souvent déchirés, mais la grâce nettoie et donne de la force. Plus l'âme est nettoyée, plus elle devient forte. C'est vrai que quand on multiplie les lavages sur un bout de tissu, le tissu va devenir de plus en plus faible. Mais avec la grâce, c'est le contraire. Plus l'âme est nettoyée par le sacrement de pénitence, et fortifiée par la Sainte Eucharistie, plus elle va devenir vigoureuse pour conserver cet état de grâce. Donc la doctrine évangélique du Christ, disent aussi les pères, apaise la chaleur de la concupiscence et les autres passions de l'âme. Donc la chaleur de la concupiscence, les trois concupiscences de la chair, des yeux, concupiscence de l'orgueil. Vous imaginez quelqu'un qui brûle de cette concupiscence, qui brûle de ce feu de l'enfer, eh bien, cette chaleur de la concupiscence va être apaisée par l'eau de la grâce. Alors, vous avez un moteur qui est trop chaud, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on met de l'eau sur le moteur pour diminuer la température du moteur. Mais c'est la même chose, quand on est brûlant de la chaleur de la concupiscence, on prend l'eau de la grâce pour diminuer justement cette température. Donc, cette doctrine évangélique du Christ, cette eau vive, étanche aussi la foi, la soif spirituelle. Donc on parle à la fois de la doctrine évangélique du Christ, le Saint-Esprit, la grâce du bon Dieu. Ces trois choses donc vont étancher la soif spirituelle. Comme l'eau fertilise la terre, les arbres et les plantes, ainsi la grâce fructifie en bonnes œuvres et autres vertus, élève l'âme non seulement pour qu'elle produise de bons fruits naturels, mais aussi les fruits surnaturels de foi, d'espérance et de charité. Celui qui habite en moi portera beaucoup de fruits. Donc, les fruits de la grâce, c'est les bonnes œuvres et les bonnes vertus et les vertus. Donc, une fois qu'on a la grâce de la charité ouvre la porte à toutes les vertus. On ne peut pas avoir la charité sans la foi et l'espérance. Attention, c'est impossible, hein. On peut avoir la foi et l'espérance sans la charité, mais pas l'inverse. Vous avez la charité en vous, donc vous avez toutes les vertus. Vous avez les vertus théologales d'espérance et de foi, mais vous avez aussi toutes les vertus morales. Les vertus cardinales, de prudence, de force, de justice, de tempérance, tout ça est inclus, ce qu'on appelle la couronne des vertus, c'est inclus dans la vertu de charité. Votre comparaison des pères, un poirier produira des poires et un rosier des roses. Mais la grâce produit les fruits de toutes les vertus dans une âme qui autrefois était polluée ne produisait que les mauvais fruits de malice. Et on retrouve tout ça dans les textes de saint Paul, notamment dans ce magnifique texte de Galates au chapitre 5, où justement saint Paul fait la comparaison entre l'âme polluée qui donne les fruits de mort et l'âme en état de grâce qui donne au contraire les fruits de vie. Je vous relis ce texte splendide de saint Paul, chapitre 5 de l'épître aux Galates. Laissez-vous conduire, mes frères, par l'esprit, et vous ne donnerez pas satisfaction aux convoitises de la chair. Oui, par ses désirs, la chair va contre l'esprit, par les siens, l'esprit contre la chair, entre les deux, c'est l'opposition, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si c'est l'esprit qui vous conduit, vous n'êtes pas sous la loi. Elles sont bien connues, les œuvres de la chair. Sont la fornication, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, la discorde, l'envie, les emportements, les cabales, les dissensions, les factions, les jalousies, les beuveries, les orgies et autres choses semblables. Et je vous en préviens, comme déjà je vous ai prévenu, ceux qui font des pareilles choses ne posséderont pas le royaume de Dieu. Ce que produit l'esprit, au contraire, c'est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de pareilles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent au Christ, Jésus, ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, que notre conduite aussi soit inspirée par l'esprit. N'ayons pas de vaine gloire entre nous, pas de provocation entre nous, pas de jalousie. Les fruits d'esprit qui s'opposent aux fruits de la chair. Donc, on juge là par ses fruits. Est-ce que j'ai ces fruits de l'esprit, notamment la charité, la paix, la joie? Ceux qui ont fait les exercices saintiniens se rappellent ce qu'explique saint Ignace, les signes par lesquels on peut reconnaître le travail de la grâce sanctifiante dans une âme, la paix, la joie, la lumière, l'attraction vers les choses belles. Au contraire, les signes par lesquels on peut reconnaître que malheureusement le démon travaille dans mon âme, notamment la tristesse, l'obscurité, la confusion et l'attraction vers les choses laides. Autre commentaire des pères en bas de la page 43, nous commençons un peu. Ces passages splendides. Donc, les pères donnent d'autres explications pour nous faire comprendre que le Saint-Esprit et sa grâce sont représentés par cette eau vive. Celui qui boira cette eau vive n'aura plus jamais soif. Pourquoi? Voilà ce que disent les pères. Le Saint-Esprit vit en lui-même avec la plénitude de la divinité une vie divine et bienheureuse et donne sa propre vie à l'âme fidèle. Le Saint-Esprit avec le Père et le Fils est vie essentielle et incréée. De lui découle la vie naturelle et surnaturelle de tous les anges, tous les hommes, tous les animaux et les plantes comme d'une fontaine ou plutôt d'un océan. Donc cette grâce, si vous voulez, c'est pas simplement une fontaine, une simple fontaine, c'est un océan de vie qui va donner la paix, qui va donner tous ces dons du Saint-Esprit, toutes ces vertus qui découlent directement de la grâce sanctifiante. N'oubliez pas qu'avec la grâce sanctifiante, la vertu de charité, vous avez les couronnes, la couronne de la grâce. La couronne de la grâce, c'est quoi? C'est les dons du Saint-Esprit, c'est les fruits du Saint-Esprit, et ce sont les béatitudes. La béatitude, c'est le sommet de la vie spirituelle. La grâce du Saint-Esprit, disent les pères, est aussi la forme de toute vie selon l'Esprit. La grâce est comme l'âme de la vertu et de la sainteté. C'est la grâce qui donne la vie divine. Pas de grâce, l'âme est morte, spirituellement morte. Donc c'est cette grâce sanctifiante qui va donner à l'âme sa vertu et sa sainteté. Une âme qui perd la grâce du bon Dieu, c'est une âme, si vous voulez, qui est toute corrompue, qui perd immédiatement sa beauté. Rappelez-vous des comparaisons de saint Curé d'Ars, qui comparait une âme en état de péché mortel au cadavre d'un chien crevé, qui pourrit sous le soleil du mois d'août sur une place de village. Donc là, j'aime bien cette formule des pères, la grâce est comme l'âme de l'âme. C'est la grâce qui donne la vie spirituelle. Plus de grâce, l'âme est morte. Elle peut ressusciter. Dieu permet la résurrection d'une âme en état de péché mortel par la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante est donnée par les sacrements, notamment par le sacrement de la Sainte Eucharistie, de la pénitence. Attention. Hein. Par sa grâce, le Saint-Esprit, qui est la vie même, habite en nous pour nous mettre au service de Dieu. Donc par lui, notre âme sera continuellement renouvelée en ce qui est bon, préparant dans notre cœur de nouvelles marches par lesquelles il monte, vers des choses meilleures et plus élevées. Heureux les hommes qui ont en vous leur force, leur montée, leur sont à cœur, dit le psaume 84. Donc la grâce du Saint-Esprit ne connaît pas les efforts tardifs, mais oblige l'âme à monter avec la très Sainte Vierge Marie, les collines des vertus. Une faute de frappe, là, il faut que je corrige. Donc, si vous voulez, on peut comparer le travail de la grâce dans une âme à la montée d'un escalier ou la montée vers le sommet de la montagne. On monte les marches, on monte, et plus on monte, plus l'air est pur, et on se rapproche de la pureté même qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc, il faut travailler ce renouvellement spirituel. Dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas recule. Il faut vraiment, c'est très important pendant le sacrifice de la messe, il faut vraiment pouvoir vous dire, quand vous avez quitté la Sainte Messe, quitté la chapelle après la Sainte Messe dominicale, est-ce que j'aime plus le bon Dieu après la messe qu'au début de la messe? Est-ce que l'amour du bon Dieu, que le degré d'amour du bon Dieu que j'avais dans mon âme au début de la Sainte Messe, lorsque je suis rentré dans cette chapelle, est-ce qu'il a augmenté maintenant? Est-ce que par ma communion, j'ai remis un peu de carburant sur le feu? Oui, notre âme est un peu comme un feu qui a brûlé pendant toute la semaine, et puis il n'y a plus beaucoup de bois, alors bon, il reste encore quelques cendres, qui recouvrent beaucoup de cendres même, qui recouvrent les braises. Les braises sont encore là, mais qu'est-ce que fait la Sainte Communion? Qu'est-ce que fait la Sainte Messe? Renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. La Sainte Messe, la communion va souffler sur les cendres et remettre du bois neuf. Du bois pour alimenter de nouveau, renouveler en quelque sorte la vie de ces braises. Et dès que on souffle sur ces braises, de nouveau le feu va jaillir. Je vous conseille beaucoup, mes bien chers frères, je vous l'ai déjà dit souvent, après ces cours, il est très difficile pour moi de savoir combien de personnes sont encore intéressées par ces cours, je ne sais pas. J'ai reçu quelques messages de gens qui me disent qu'ils continuent de travailler ces cours. J'ai aucune idée du nombre de personnes qui suivent régulièrement ces cours que je mets sur Internet. Parce qu'évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que d'autres choses, mais je pense que c'est important de connaître l'Écriture sainte. Connaître l'Écriture sainte, c'est surtout l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte telle qu'elle est donnée par les pères. Encore une fois, c'est les pères de l'Église qui nous donnent l'esprit d'Église. Malheur à celui qui a perdu l'esprit d'Église, qui est un esprit d'humilité, évidemment. On avance avec la page 44, donc on passe au verset 13 à 18 de la page 44. Il y a beaucoup de commentaires des pères de l'Église sur ces passages-là. Donc verset Saint Jean, chapitre 4, verset 13 à 18. Jésus lui répondit à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donnez-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Allez, appelez votre mari et venez ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Vous avez eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car vous avez eu 5 maris, et maintenant celui que vous avez n'est pas votre mari. En cela, vous avez dit vrai. » Et manifestement, notre Seigneur Jésus-Christ ne croyait pas beaucoup aux annulations de mariage. Et là, c'est un texte très important, vous voyez, pour nous rappeler que on est marié, on ne l'est pas. Et je suis parfois vraiment estomaqué d'entendre des catholiques qui me disent... Oui, il faut pas faire de différence entre nos enfants, vous comprenez, on a un enfant, c'est vrai, qui a mal tourné, qui vit en concubinage, il est marié civilement seulement, il n'est pas marié religieusement, et vous comprenez, je dois aimer tous mes enfants. Et donc je mets cet enfant concubinaire, je le mets au même niveau qu'avec les autres enfants qui vivent selon la loi d'Église. Attention, bien sûr, même votre fils qui vit dans le péché, il faut l'aimer, vous devez l'aimer, qu'est-ce que ça veut dire aimer votre enfant? Aimer son enfant, ça veut dire aider l'âme de cet enfant à revenir vers le bon Dieu. Vous devez aimer votre enfant, mais haïr le péché dans lequel il vit. Donc c'est un crime très grave pour des parents de faire croire qu'il n'y a pas de différence entre le fils qui vit dans le concubinage et les autres enfants qui vivent selon la loi du bon Dieu. Un concubinaire, c'est un concubinaire, c'est quelqu'un qui est dans le péché. Les concubinaires ne posséderont pas le royaume des cieux, c'est pas moi qui le dis, c'est Saint-Esprit, c'est Saint-Paul qui le dit. Donc quelqu'un qui vit dans le concubinage ne peut pas espérer sauver son âme, c'est absolument impossible. J'ai parfois entendu les catholiques qui disent, oh, mais l'important c'est qu'ils s'aiment et le bon Dieu pardonne le péché. Il pardonne le péché quand ils sont qu'on change. C'est ce qu'il a dit dans bien des cas. Va, il pardonne. Tes péchés sont pardonnés, mais ne pêche plus. Change de vie. Alors voyons un petit peu le commentaire des pères en bas de la page 44. Ce qui est dit est très vrai de l'eau naturelle et de l'eau allégorique dont elle est la figure. L'eau allégorique, donc, qui est la figure, et c'est la grâce sanctifiante, on a déjà expliqué, c'est le fruit, le travail du Saint-Esprit. Donc l'eau dans le puits signifie la volupté charnelle, dans les profondeurs ténébreuses du siècle. C'est pour ça qu'il dit que le puits est profond. C'est là que les hommes viennent à puiser avec l'urne de la convoitise, mais c'est pas la convoitise qu'on est poussé à la volupté. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs symboles. Ce puits profond, à la fois, ça représente le puits de la grâce, en le sens que si je me sors du péché, je retrouve la grâce sanctifiante et toute la force que me donne la grâce sanctifiante. Mais en même temps, ce puits profond, dans sa noirceur, vous regardez, dans un puits, l'eau apparaît toujours noire au fond du puits, surtout si le puits est profond. Bien, cette noirceur représente les profondeurs ténébreuses du siècle, représente donc les trois concupiscences. Donc, c'est la convoitise, c'est par la convoitise qu'on est poussé à la volupté. Mais lorsque l'homme s'est désaltéré dans les jouissances charnelles, sa soif sera-t-elle apaisée pour toujours? Il est donc vrai que celui qui boira de cette eau a encore soif. Mais s'il boit de l'eau que je donne, moi, notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, il n'aura jamais soif. Car comment ceux qui sont enivrés, qui seront enivrés de l'abondance de la maison de Dieu, pourront-ils encore éprouver le besoin et la soif? Ce que le Sauveur promettait donc à cette femme, c'était l'effusion surabondante de l'Esprit Saint qui devait rassasier son âme. Avec la nourriture corporelle, plus on la prend, plus on est rempli, si vous voulez, dans le mauvais sens du terme, plus on se sent mal parce qu'on a trop mangé ou trop bu. Un verre de vin, ça va, vous buvez un litre de vin, ça va plus du tout. Et vous allez vous remplir, justement, l'estomac d'une lourdeur qui va vous entraîner vers le péché. Au contraire, avec les choses spirituelles, avec l'eau spirituelle que Dieu seul peut donner, c'est tout à fait le contraire. Là, c'est tout le travail de la grâce. Vous voyez, qui va, plus on en consomme de cette grâce, plus on a envie, plus on aime le bon Dieu. Encore une fois, il faut que vous ayez à la fin de votre messe plus d'amour du bon Dieu que vous n'en aviez au début de la messe, sinon quelque chose qui ne va pas. Je vous ai déjà expliqué souvent cette remarque d'un enfant pour un confrère qui fêtait ses 20 ans de sacerdoce, je crois. Un enfant lui a dit au moment de la petite fête qui était organisée par les fidèles, et le micro passe entre les fidèles pour féliciter l'abbé pour ses 20 ans de sacerdoce, et puis il y a un enfant qui demande le micro, on lui donne le micro et il dit: mon père, moi je monsieur l'abbé, j'ai une question à vous poser, est-ce que maintenant vous avez 20 ans de sacerdoce, est-ce que vous aimez plus le bon Dieu maintenant que vous l'aimiez le jour de votre ordination il y a 20 ans? Voilà une question. Avec les enfants pour poser des questions pareilles. Et c'est exactement la question, est-ce que j'aime plus le bon Dieu maintenant? Est-ce que j'aime plus le bon Dieu après avoir prié qu'au début de mes prières? Est-ce que j'aime plus le bon Dieu, la Sainte Vierge Marie, à la fin du chapelet qu'au début du chapelet? Oui. Alors, pour ça que notre Seigneur dit que si vous buvez de l'eau que je donne, vous n'aurez plus jamais soif. Hein? Alors, un texte d'Origène ici, en bas de la page 44. Examinez s'il ne serait pas possible, dans le sens allégorique, de voir dans cette fontaine de Jacob l'ensemble des Saintes Écritures. On trouve le même texte, les mêmes idées. L'eau que donne Jésus, ce sont les mystères que contiennent les Saintes Écritures. Et il n'est pas donné à tout le monde d'approfondir. et qu'il n'est pas donné à tout le monde d'approfondir. Car la lettre de l'Écriture a été dictée par des hommes, mais ces mystères que l'œil de l'homme n'a point vu, que son oreille n'a point entendu, que le cœur de l'homme n'a point compris, peuvent être produits par les Écritures. Or, ils découlent de cette source qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle, dire le Saint-Esprit. Donc l'auteur de l'Écriture sainte, c'est le Saint-Esprit, attention. Les écrivains, les apôtres, les évangélistes, les Moïse et tous les prophètes qui ont écrit, ils ont écrit sous la dictée du Saint-Esprit, attention. Il y a l'inhérence biblique à cause de cela. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'Écriture sainte à cause de cela. Attention, pas oublier ça, s'il vous plaît. Donc cette source qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle, c'est l'Esprit Saint, qui est un esprit de sagesse. Donc on retrouve le... On retrouve tout ça au puits de Jacob. Hein, donc je reprends le texte là. C'est l'esprit de sagesse qui n'est révélé qu'à ceux qui ne portent plus en eux-mêmes un cœur d'homme et qui peuvent donc dire avec l'apôtre, pour nous, nous avons l'esprit de Jésus-Christ. Se remplir de notre Seigneur Jésus-Christ et pouvoir se remplir de l'eau de cette grâce, il faut vider son cœur de l'eau ténébreuse du péché et des mondanités. On ne peut pas aimer à la fois notre Seigneur Jésus-Christ et le monde, c'est impossible. Donc celui donc qui n'entre point dans les profondeurs des paroles peut bien coûter quelques instants de repos, mais pour retomber bientôt dans le doute. Celui au contraire, qui boit de l'eau que Jésus lui donne, voit jaillir en lui la source de toutes les vérités qu'il cherche à connaître, et à mesure que l'eau s'élève, son âme s'envole à la suite de cette eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. C'est toujours la même image que l'esprit, c'est un esprit, l'esprit de Dieu est un esprit de légèreté. Comparer ça à un oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il a un fil à la patte, on coupe le fil à la patte, et du coup, l'oiseau peut s'envoler vers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette grâce sanctifiante va enlever les doutes. Si les gens doutent tellement de la foi en général, c'est parce que leur foi est trop faible et parce qu'ils n'utilisent pas la Sainte Eucharistie suffisamment et le sacrement de pénitence pour justement pouvoir fortifier et renforcer leur foi. Donc, autre commentaire des pères, cette femme, la Samaritaine, voulait, sans recourir à l'eau de Jacob, parvenir à la vérité à la manière des anges, et par une voie supérieure à celle des hommes. Car les anges n'ont point besoin de l'eau de Jacob pour étancher leur soif, mais chacun d'eux a au-dedans de lui une fontaine d'eau qui sort du verre et qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle. Cette femme lui dit donc, Seigneur, donnez-moi de cette eau. Elle va insister, elle cherche Dieu, elle cherche le vrai. C'est magnifique de trouver, voir des âmes comme ça, parfois des âmes... Toutes, qui ont été tourmentées pendant longtemps, qui cherchent le vrai, qui cherchent, trouvent. Et là, il y a une phrase très importante en bas de la page 44. Il est impossible de recevoir l'eau qui est donnée par le Verbe sans puiser la fontaine de Jacob. Cette fontaine de Jacob, c'est la fontaine de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Donc il est impossible de recevoir l'eau qui est donnée par le Verbe sans puiser dans la force que donne le Saint-Esprit. Aussi, lorsque la Samaritaine lui demande cette eau, Jésus semble lui dire qu'il ne peut lui en donner qu'en puisant à la fontaine de Jacob. Si nous avons soif, nous ne devons d'abord chercher à nous rafraîchir qu'avec l'eau de la fontaine de Jacob, c'est-à-dire l'eau du Saint-Esprit. Car selon la doctrine de l'apôtre, la loi est comme le mari de l'âme. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ va dire « Allez, appelez votre mari et venez ici ». Vous voyez comme il est encore une fois important d'avoir suffisamment d'humilité pour se soumettre notre esprit à l'enseignement traditionnel de l'Église. Voilà, je vais arrêter là, mais ça fait déjà une heure que je vous parle. Et je conseille encore une fois à tous ceux qui m'écoutent de relire. Après avoir terminé le cours, relisez non seulement les versets que je viens d'expliquer pendant cette heure de cours, mais aussi les commentaires. Relisez votre polycopier. C'est pas sans travail, un travail acharné qu'on vide son âme des idées protestantes, des idées libérales pour remplir son âme de l'esprit de l'Église catholique. Voilà, nous en sommes donc à la page 45. et avec les grâces de mon Dieu, nous continuerons la prochaine fois. Terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.